they win for money. Yeah. Because of money, we don't work, we don't stay for our town. Because of money, we don't stay to Lotto every day. Every day, banker.
C'est bien Spectaculaire qui commence aujourd'hui avec un nouveau générique que nous devons à Gérald. Spectaculaire émission numéro 109. Christophe Rollin au micro. 14h04. Mon Dieu, nous sommes un peu en retard en ce mercredi 9 novembre 2016. C'est une grande journée. Je l'évoquerai à nouveau en fin d'émission. On verra pour quelle raison. Grande journée pour nous également. Grande émission puisque nous recevons pas moins que Pauli Pitchum et Mackie Messer. Ils donneront leur vrai nom ensuite puisque je viens d'évoquer le nom des personnages de la pièce, l'opéra de Katsu, qui est donné actuellement au théâtre de la Croix-Rousse. Ça a commencé la semaine dernière, ça se termine ce samedi, ce sera le 12 novembre, ça se terminera au théâtre de la Croix-Rousse. Ce sera le terme d'une série de 9 représentations, pas moins de 9 représentations, c'est très très bien. Donc voilà, Pauli et Mackie sont avec nous, vous aurez leur nom de comédien ensuite. Ils sont avec nous pour parler de ce spectacle, mise en scène de Jean Lacornerie, une pièce de Bertolt Brecht dont la musique a été faite par Kurt Weill. Voilà, Gérald l'a vu ce spectacle, donc il pourra en parler. Nous commençons d'ailleurs en musique, une musique même qui vient de cette production. D'ailleurs, on n'a pas encore décidé. On va décider quel morceau on vous passe et puis ensuite nous continuons jusqu'à 15h. Pas de blues des Canus aujourd'hui, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Vous nous écoutez sur Radio Canu, le 102.2 de la bande FM, ou bien à Lyon sur radiocanu.org, ça c'est pour internet, et le 102.2 de la bande FM, ça c'est si vous nous écoutez à Lyon. Je crois que c'est Mac et mes sœurs qui doivent être interpellés par Polly. Gérald, c'est ça à peu près. Bonjour Gérald.
Bonjour à tous. Bonjour. Chers invités, merci de votre présence.
Salut tout le monde.
Merci au Hôtel de la Croix-Rousse, à Héloïse qui nous a permis de rencontrer Pauline Gardel à ma gauche, Vincent Edon à ma droite. Vincent Edon, Pauline qui incarne Polly Pitchum, la fille de Monsieur Pitchum, dans le chef-d'œuvre classique, qui est, on peut dire, un grand chef-d'œuvre classique du nouvel opéra moderne, qui est l'opéra de Katsu, ou en allemand, un extrait qu'on vient d'écouter, dit Die Großen Oper, créé à Berlin en 1928, oui. Et donné la première fois en 1930, peut-être, ou 29.
Possible.
Et on vient d'écouter le premier final, puisqu'il y a trois finales dans ce spectacle. C'est un spectacle de 2 heures que j'ai vu hier soir, qui est magnifique et que j'invite évidemment les auditeurs à aller courir voir.
On l'a indiqué, c'est au théâtre de la Croix-Rousse.
Oui.
Qui se trouve sur la place Johannes Ambre, c'est la place principale de la Croix-Rousse.
À Rémailly, en bus, c'est 13.
Ah voilà, ça c'est très pratique. Et en métro, je crois que c'est bien aussi en métro. On descend la station Croix-Rousse et puis allez, on chemine un petit peu, il y a quoi, 500 mètres, c'est très bien. Identité de nos invités, hein, c'est ça Gérald?
Alors, sommes-nous galants habituel. Qui êtes-vous, Pauline Gardel?
Qui suis-je? Je m'appelle Pauline Gardel en effet, ce qui est quand même très très proche de Polly. Quel est le nom de mon personnage?
Ça m'a frappé tout de suite, c'est vrai.
Très agréable pour mes partenaires. je suis très contente de faire partie de ce projet parce que je me suis attachée à la langue allemande malgré des années de collège difficiles. Et du coup, j'étais très très contente de travailler avec Jean sur un projet comme ça avec des chansons en allemand. Et donc j'ai commencé plutôt par le théâtre, donc c'est comme ça que j'ai connu cette pièce. Et je me suis mise à la musique que j'avais étudiée plus jeune, mais du coup je me suis mise dans le musical récemment, il y a 2 petites années, voilà.
C'est
et
tout.
Puis, il faut développer.
Je pourrais continuer pendant des heures, mais bon.
Gérald, vous avez encore quelques minutes pour parler du piano classique.
Voilà, c'est ça Gérald.
Oui, c'est ça, j'avais commencé...
Musicale.
Voilà, j'ai fait du piano classique pendant une quinzaine d'années. Et puis ensuite, je suis passée à la variété.
Carrément la variété.
Ouais, j'appelle ça la variété parce que j'ai un groupe de rock électro. Mm-hmm. Et un projet un petit peu plus pop. Donc pour grosso modo, j'appelle ça la variété, mais c'est du rock en gros.
D'accord.
C'est du rock. C'est plus mon rapport à la musique, c'est dans le rock. Du coup, je présente peut-être une Polly un petit peu rock'n'roll, mais avec Brecht, je trouve ça.
Ça colle pas mal. Hein.
Ça colle.
Ouais, c'est bien, ça marche bien.
Et si on souhaite vous voir, est-ce que parfois il vous arrive de traîner dans ces lieux un petit peu infâmes que sont les programmes télévisuels, j'allais dire un peu télévision, je ne sais pas. Est-ce que
oui.
des téléfilms ou même le cinéma, pourquoi pas? Non.
Non.
Que les planches.
Je n'ai jamais joué au cinéma. Je pense par paresse aussi, c'est une carrière qu'il faut mener, mais je ne désespère pas de mener cette carrière. Mais sinon, oui, à la télévision, non, j'y ai été surtout pour la musique, d'ailleurs.
Bah, au théâtre de Bobino, et puis beaucoup, alors à Stuttgart, cette expérience au Schauspielhaus.
Ouais, j'ai joué, c'est là en fait où j'ai commencé à aimer la langue allemande. Que j'avais haï pendant tant d'années. Mmh. Et j'ai joué au Schauspielhaus pendant 3 saisons.
Donc avec
des équipes allemandes. Oui, c'est pas mal. Il y a beaucoup de comédies musicales aussi, d'ailleurs. Et sinon, c'est un bon mélange, un petit peu comme la Croix-Rousse, en fait, entre la comédie musicale et le théâtre pur et dur.
Vous avez interprété une grande variété d'auteurs et de textes très différents. Jean-Luc Lagarce, Amélie Nothomb, Denise Kelly, Goldoni, Ismaël Jude, Arthur Schnitzler.
Ouais,
j'ai
fait surtout du théâtre. Puis comme j'ai commencé à, je sais pas, 19 ans, après l'école, du coup, j'ai énormément forcément, avec des troupes de théâtre, on reste assez liés. Dans le théâtre, on aime bien changer d'auteur facilement. Donc en effet, ça fait un panel, mais bon.
C'est ça qui est intéressant.
Ça reste des mises en scène modernes, donc ça.
On peut vous écouter sur des CD, le groupe Face, alors on s'en trouve sur Internet ou en vente dans des bacs?
Ouais, il faut taper Face le groupe. Nous avons en fait deux albums. Et maintenant, j'ai un projet qui s'appelle Poskies et un projet qui s'appelle The Glutens.
Ah voilà, les Glutens.
Tout ça à venir en 2017.
Très tendance, les Glutens.
Et est-ce que vous faites des concerts avec votre groupe de rock ou... Ouais. Enfin, c'est possible de vous voir sur scène?
Oui, bien sûr. Alors là, on est en production en ce moment jusqu'en janvier, ce qui va pas mal avec l'opéra de Katsu aussi. Ça me permet d'alterner les deux. Et sinon, on joue le 13 novembre d'ailleurs pour un hommage au Bus Palladium à Paris. Et sinon, on nous retrouvera en janvier.
D'accord.
Donc on reprendra les tournées à partir de fin janvier-février.
C'est une sorte de concurrence avec Sting. Je crois qu'il est, il est en concert le
12. Oui, le 13 novembre.
C'est le 13 ou je crois que c'est le 12, c'est la veille, il est au Bataclan. Puisque justement le 13, le Bataclan souhaitait être fermé pour ne pas... Enfin, je sais pas, pour ne pas fêter...
Pour les sièges et...
Mais donc vous dites que c'est un hommage, enfin comment dire. C'est pas un concert comme ça...
Non, c'est clairement un hommage parce que ces deux groupes ont joué avec Captain Americano et donc nous en tant que The Glutens et Captain Americano, on a des amis qui sont décédés ce jour-là et du coup on a fait un hommage. On jouait le 13 novembre ce soir-là au Bus Palladium avec mon groupe et du coup on a décidé de faire une soirée qui sera absolument pas déprimante, hein, qui sera très lumineuse et, et donc on fait la fin de soirée de Sting à partir des 17h le 13.
L'after de Sting.
C'est chic.
Il faut qu'on conserve donc ce pan de cette personnalité, Pauline, la musique. Et vous, Vincent, la musique, vous y avez touché un petit peu?
Oui, j'ai commencé par la musique aussi. Pas piano classique, mais moi, c'était de l'accordéon classique. Je faisais partie d'un orchestre philharmonique d'accordéon, c'était merveilleux. Et puis l'orgue aussi, tu vois, j'ai touché un peu le clavier. Et le piano est venu plus tard, mais juste pour accompagner le chant. Et puis quasiment en même temps, le théâtre et la danse sont venus pareil dans mes années de l'école primaire. Ouais, c'est même encore.
Et comment est-ce que c'est venu? Y a-t-il, je sais pas, une figure marquante ou un spectacle marquant ou un jour marquant? Enfin,
alors en fait, pour le théâtre, oui, tout à fait. C'est je faisais du grec ancien à l'école, en plus de l'allemand et l'école.
Qu'est-ce que c'est bien ça de faire du grec
de niveau à l'époque.
Ah ouais, voilà.
Je connais des personnes qui même enseignaient le grec à une époque, qui sont des personnes de qualité. C'est très très bien.
Forcément, du grec ancien,
professeur de grec ancien. Qu'est-ce que ça doit être bien ça.
Et donc voilà, et mon professeur de grec est associé au professeur de latin de l'époque. Nous avait emmené au théâtre à la Cartoucherie à l'époque de Vincennes et j'avais vu la trilogie d'Eschyle montée par Ryan Nouchkine, ouais. Et je me suis dit que je voulais monter sur scène et bon, déjà j'avais très envie depuis un petit moment mais là ça a été un vrai choc artistique mais dans le bon sens du terme. Donc voilà, ça c'était pourquoi j'ai commencé à entrevoir une autre possibilité puisque l'école me plaisait bien, j'étais très bon à l'école, tout se passait bien, j'aurais pu faire plein de choses qui m'auraient certainement intéressé, mais à partir de ces spectacles-là, je me suis dit que la fibre artistique qui résonnait depuis déjà un petit moment parce que j'ai commencé à 5 ans la musique allait être la plus forte, ce qui a été le cas.
On n'a pas posé cette question, Gérald, à Pauline. Et la rencontre avec Jean Lacornerie, comment s'est-elle faite? Puisque vous l'avez indiqué, vous êtes parisien, c'est le théâtre de la Croix-Rousse, Jean Lacornerie, a priori. Ouais. Auparavant, il était à Oullins.
Alors moi, j'avais joué à Oullins parce que c'est des retrouvailles avec Jean.
Oh.
Nous avons fait ensemble Lady in the Dark de Kurt Weill. Ira Gershwin.
J'ai vu ce spectacle il y a 10 ans, je crois, non 2008, il me semble, quelque chose comme ça.
Oui, c'est ça, exactement.
Quelle était c'était une chanteuse américaine, je crois, qui était.
Anglaise, ouais. Anglaise. Tina May.
Ah, voilà, c'est ça, ouais, Tina May.
Tout à fait.
Je l'avais reçue, Gérald, dans une autre vie, sur une autre station radiophonique.
Bravo.
Tina May était venue dans une émission pour parler. J'ai même d'ailleurs chez moi un enregistrement. Zut, j'aurais dû l'apporter pour le faire dédicacer Vincent.
Ah, c'est une copie aussi.
Mais c'est bah, très bien. Ah, mais c'était bien, enfin, du moins, ça.
C'était
compliqué. Il y avait un peu comme les sept péchés capitaux, je crois, une sorte de double rôle, c'est ça, une chanteuse,
oui, exactement.
Un peu danseuse ou
exactement. Il y avait Tina qui jouait en fait le personnage principal dans ses rêves, puisque une grosse partie du spectacle a lieu dans les rêves
onirique.
Qu'elle raconte à son psy. Et puis la comédienne Cécile Camp, voilà, le nom m'échappait presque, mais non, Cécile Camp qui jouait le personnage dans la vie réelle, qui était directrice d'un magazine de mode.
Et donc à cette occasion, vous aviez rencontré Jean Lacornerie.
Oui, et en fait Jean m'avait vu dans un spectacle à Paris, monté par Marion Biry, l'illusion comique de Corneille.
Ah, c'est très classique ça.
Ouais, c'était un classique.
Qui faisiez-vous hein? Comment s'appelle-t-il le mage, enfin du moins le magicien?
Exactement, je faisais le magicien, sauf que...
Ah, Alcandor, donc quel est son nom déjà?
Alcandre, ensemble. Peut-être. Et puis, c'était une mise en scène un peu spéciale de Marion Biry, du coup c'était mélangé avec le rôle du fils. Clin d'or, non? Ou...
Ah, voilà,
ouais, c'est ça.
Il y avait
le rôle du fils. Donc voilà, c'était le mage qui finalement s'avérait être le fils à la fin de la pièce.
Y avait-il déjà un peu de musique dans ce spectacle à l'époque?
Non. Il y avait un peu de musique, oui. On avait mis du Handel, du Chopin, chanté en roumain. C'est pas de l'allemand à l'époque, c'était du roumain. Et c'était chouette. Et donc voilà, c'est là que Jean m'a vu pour la première fois. Et puis on s'est rencontrés. Et on a fait Lady in the Dark. Et là, on se retrouve sur l'opéra de Katsu avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir.
Il faut dire que Lacornerie et Jean Lacornerie, qui était venu ici dans notre émission, je renvoie l'émission 56 quand il a présenté l'opéra de Blacher. On en parlera plus tard.
Boris Blacher, oui.
Boris Blacher, l'opéra. Mais j'ai vu dans le dossier de presse qu'il avait monté beaucoup de spectacles brechtiens. Il y avait Vénus aussi, comment ça s'appelle? La Pielle aussi, plusieurs.
Une 4-5. One Touch of Venus, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, peut-être Vénus tout simplement.
Voilà.
Maintenant, il faut demander à Pauline, sa rencontre avec Jean, comment c'est venu, c'est assez récent, ou alors au contraire, comme Vincent, ça remonte à, oh non, c'est quoi, 9 ans, 8 ans, c'est ça?
Ouais, on est presque à la dizaine, hein, on peut le dire, on n'a pas peur.
Non, c'est assez récent, c'était l'an dernier, en fait.
Ah oui.
On s'est rencontrés sur un spectacle à Bobino, et en fait, ensuite, Jean a appris que, justement, que je parlais un petit peu allemand. Et comme il cherchait des chanteurs qui puissent chanter en allemand, voilà. Et moi, j'ai sauté sur l'occasion parce que j'adore l'opéra de Katsu. Donc, je dis oui. Je travaille avec Jean, c'est un plaisir.
T'as dit ya.
Ouais, tout simplement. J'ai dit ya.
Wunderbar. Toll, krass. Bon, nous sommes peut-être prêts à parler.
Très humble, donc il faut quand même préciser qu'il a eu beaucoup de prix d'interprétation masculine au Festival Musicals et qu'il a même eu un Oscar pour un doublage de voix française et qu'on le voit au cinéma dans La Recherche des Temps Perdus.
C'est pas moi qui ai eu l'Oscar, c'est l'acteur.
Ah, ça va alors.
C'est Jared Leto qui a eu.
Me voilà rassuré. N'empêche que.
Jared Leto, c'est vrai. Et moi, je l'ai doublé en français, c'était merveilleux. Ouais. J'ai eu beaucoup de chance.
C'est pour quel film?
C'était Dallas Buyers Club, qui est un merveilleux film. Je vous conseille de le voir en VO pour le coup. Je vous conseille. Mais si vous le voyez en VF. Vous m'entendrez.
La télévision, vous-même, vous y avez donc presque touché, alors, en disant le cinéma, mais par le biais du doublage.
Dominique Blanc.
Oui, et puis à la télévision, c'était une merveilleuse aventure, à la recherche du temps perdu, réalisée par Nina Companese avec Dominique Blanc, Didier Sandre et plein de Michel Faux, plein de merveilleux comédiens. Et je jouais Morel, Charles Morel, méchant musicien. Et c'était.
La sonate de Vinteuil, c'est ça? Enfin, du moins, c'est une sorte de.
Ouais,
je
ne
sais plus quel est le lien. Enfin, du moins,
c'est. Oui, c'est ça. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, pour l'occasion, j'avais appris à jouer du violon. En playback, mais quand même.
Bien placer les doigts, quand même. Ça m'a un peu crédible.
Exactement.
Gérald, on reçoit du gratin, quand même. On reçoit du gratin. Est-ce que nous écoutons nos comédiens présents, Vincent et Pauline, chanter? Interviennent-ils dans cette balade? Oui, c'est le cas, puisque je crois qu'on a
souteneur.
On a commencé par le.
Non,
le
c'est aura,
Jenny qui chante. Hein.
C'est Jenny, c'est Nolwenn Korbel et moi.
Excellente chanteuse et comédienne.
Ouais.
C'est un duo.
C'est un duo.
Très, très voilà.
Sous Helters Basaltlöl.
Ah mais non, je me trompe.
C'est pas ça.
Toi, tu as dit qu'on allait d'abord entendre la comparaison. En fait, il est prêt. Comment dire, le morceau maintenant est prêt.
Éventuellement.
Le morceau du final. Bah,
oui, parce que bon, la note d'intention de Jean Lacornerie, on l'a pas encore dit, mais c'est de retourner à la version originale du spectacle, qui avait été réécrite, retraduite, réorchestrée, sans doute avec des formations. Il y a eu plein de variations sur ce grand classique dans les années 50. Et il a voulu revenir à la première version. Qu'on peut trouver en CD d'ailleurs, Telefunken, qui a été remise en vente. Il y a eu une exposition à Grenoble il y a presque 10 ans sur la nouvelle objectivité, parce que les peintres Dix, Gross, Beckmann, etc., l'école artistique de la nouvelle objectivité, et dans la boutique, pendant l'exposition des gravures de Gross, il y avait le Telefunken, donc avec la version originale des années 30. La première avec Lotte Lenya, Marlène Dietrich, Bertolt Brecht, tous les vieux enregistrements. Le premier.
Lotte Lenya.
Il fallait renouer avec cet esprit, donc on en parlera de la musique, l'orchestration qui est minimaliste avec la formation originale en fait.
Oui, de cette époque, et également Femme de Kurt Weill. Donc c'est ce que nous écoutons alors.
On écoute la
ce qu'on a entendu en début d'émission.
Voilà. Le premier final. Dans la version historique.
Mais la version
historique. Alors ça craque un petit peu, chers auditeurs, mais c'est ça l'intérêt.
La version 1930. Et puis ensuite,
nous
retrouvons nos invités pour continuer à parler beaucoup plus précisément de ce spectacle. Je le rappelle, ce spectacle qui est bien l'opéra de Katsu. C'est une création, musique de Kurt Weill, le texte de Bertolt Brecht, traduction de Jean-Robert Ley, on n'avait pas encore nommé, mise en scène de Jean Lacornerie, également directeur associé du théâtre de la Croix-Rousse. Ça a commencé le jeudi 3. C'était donc la semaine dernière, mais il en reste encore des représentations. Il reste ce mercredi, aujourd'hui mercredi 9, le jeudi 10 également, le vendredi 11 à 20h, et le samedi, la dernière, le samedi 12, ce sera un peu plus tôt dans l'après-midi, ce sera à 16h.
Oui, Jean-Robert Ley, c'est notre chef d'orchestre.
Ah,
c'est
pas. Chef d'orchestre.
Oui, on parlait de gratin.
Il en fait partie. Directeur du gratin. Musical. Voilà.
Il a collaboré avec que des grands super musiciens, Renaud Garcia Fons, Stefano Di Battista, etc. Et c'est un super musicien.
Je me trompe. La traduction, je l'ai vu évoquée quelque part sur le site, donc je pensais que c'était un
Fixe.
Bon, très bien. Tous les éléments sont donnés. Il s'agit du théâtre de la Croix-Rousse. Si vous souhaitez vous y rendre, eh bien, c'est la place Jean Nessembre. Et si vous souhaitez consulter Internet, eh bien, vous pouvez retrouver le lien sur le blog de l'émission, comme toujours, ou bien si vous souhaitez y accéder par vous-même sur Internet, c'est pas très compliqué. croix-roux.com et vous verrez, il est très bien le site, il est assez ergonomique, il y a une belle. On peut voir des vidéos, notamment un spectacle fait sur une station concurrente, France, non plus Culture, mais France Musique, qui avait reçu pendant une heure, ils avaient pu jouer de la musique, un peu comme nous, mais nous c'est mieux.
Donc on écoute. D'ailleurs, c'est un peu France Musique, à une époque, voilà. Il y a une très bonne émission sur France Musique qui comparait les versions, les interprétations, c'est précisément ce qu'on va faire, puisqu'on se retrouve au théâtre du Schiffbaum Bauer Flamme à Berlin le 31 août 1928.
Herr und Frau Pietschem raten ihrer Tochter ab, nur aus Liebe zu heiraten. Sie tun dies mit dem Hinweis auf die Unsicherheit menschlicher Verhältnisse.
Was ich möchte, ist es viel. Einmal in dem tristen Leben einem Mann mich hinzugeben. Ist das ein zu hohes Ziel?
Das Recht des Menschen ist auf dieser Erde, da er doch nur kurz lebt, glücklich zu sein, teilhaftig aller Lust der Welt zu werden. Zum Essen Brot zu kriegen und nicht einen Stein. Das ist des Menschen nacktes Recht auf Erden.
Doch leider hat man bisher nie vernommen, dass etwas Recht war und dann war's auch so. Wer hätte nicht gern einmal Recht bekommen, doch die Verhältnisse, die sind nicht so.
Wegen wär ich zu dir gut, alles möchte ich dir geben, dass du etwas hast vom Leben, weil man das doch gerne tut, weil man das doch gerne tut.
Ein guter Mensch sein, ja, wer wär's nicht gern? Sein Gut den Armen geben, warum nicht? Wenn alle gut sind, ist sein Reich nicht fern. Wer säße nicht sehr gern in seinem Licht? Ein guter Mensch sein, ja, wer wär's nicht gern?
Doch leider sind auf diesem Stern eben die Mittel kärglich und die Menschen roh. Wer möchte nicht in Fried und Eintracht leben? Doch die Verhältnisse, die sind nicht so.
Da hat er eben leider recht, die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht.
Natürlich habe ich leider recht, die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht. Wir wären gut, anstatt so roh. Doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. Wir wären gut, anstatt so roh. Doch die Verhältnisse, die sind nicht
so. Ja, da ist freilich nichts damit, da ist das eben alles gibt.
Die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht, da habe ich eben leider recht. Und das ist eben schade, das ist das riesig schade. Und darum ist das nicht damit, und darum ist das alles kitt.
Et alors là, on aurait dû avoir le poli qui aurait dû lancer Mac, c'est ça je crois, puisque c'était sur la version tout à l'heure que nous avons écouté en début d'émission. De quoi parlons-nous? Eh bien de l'opéra de Katsu. Les comédiens sont avec nous. Polly, je vais continuer à la nommer comme ça, puisque c'est même d'ailleurs presque un surnom. Et puis, Vincent, enfin disons plutôt Mackie Messer. Mackie le surineur. C'est l'opéra de Katsu, le Dreigroschen Oper, qui est donné actuellement. Ça se termine, il reste encore mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir à 20h, samedi à 16h, c'est au Théâtre de la Croix-Rousse. Sur le blog, j'ai indiqué que c'était un opéra, c'est quand même plus précisément une pièce. Mais
une pièce musicale, un opéra moderne,
avec
une opérette.
Beaucoup de musique.
Non, une opérette, non.
Pour moi, c'est pas péjoratif, opérette.
Non, c'est vrai, mais on n'est pas dans tout à fait le propos,
c'est pas
le style, la
c'est
construction.
Pas les Dames des Halles.
Oui, on n'est pas...
C'est un peu l'anti-Dame des Halles, mais il y a des points communs, peut-être.
Gérald
dans le grotesque, l'outrance.
Peut-être, ouais.
Est-ce une question...
paillettes.
C'est une question que tu lances à nos invités, donc Pauline.
J'aimerais qu'on parle
et
de l'histoire, peut-être.
Je t'en prie.
Là, on vient d'écouter donc l'ancienne version. Et alors, c'est quel moment de... Si on peut résumer en gros l'histoire, le milieu...
C'est la fin du premier acte, en sachant que la pièce a donc trois actes.
Ouais.
Et on a appris que Polly, la fille de Monsieur et Madame Pichou. Alors, qui sont Monsieur et Madame Pichou? Vas-y, raconte-nous.
L'histoire de mes parents. Donc, Monsieur et Madame Pichou ont une sorte d'entreprise. En fait, ils dirigent la pauvreté à Londres, en quelque sorte.
Ils organisent la pauvreté.
Ils organisent la pauvreté, exactement. Dans notre opéra, c'est sous forme aussi de marionnettes, etc. Donc, c'est une...
On n'a pas dit encore, mais...
On n'a pas dit, il ne faut pas le dire alors. On n'est pas là. Non mais c'est ça, en fait, monsieur et madame Pichoum sont le roi et la reine des mendiants, en quelque sorte, à Londres, et ont une fille, Polly, qui est donc moi. Et on vient d'apprendre dans ce premier acte qu'elle s'est mariée avec Mackie. Qui est
le plus grand, le plus grand bandit de Londres, donc voilà. Un peu le plus grand ennemi de monsieur madame Pichoum.
Les deux grandes.
Et elle l'a fait de façon évidemment clandestine, sans le dire à ses parents. Et ils apprennent ça, et voilà, et ça se termine par ce trio entre monsieur et madame Pichoum et leur fille, qui parle. Comment c'était?
Avec des paroles, mais sinistres. Hein.
Oui.
J'aurais tant aimé être bonne pour dire prends, je te le donne, que tu profites de la vie. Mais en fait, c'est la catastrophe. Mais être bon, qui ne le voudrait, en fait, c'est la nature humaine dans ça, tout ce qu'il y a de noir et de mauvais, finalement.
Ouais,
c'est
on voudrait, mais.
Brecht.
On voudrait
faire le bien, mais
en fait on peut
c'est
pas.
Impossible.
Voilà, si les circonstances s'y prêtaient, ça revient dans le refrain tout le temps. Hein, je serais bien si les circonstances, le monde est pauvre, l'homme mauvais, nous aimerions tous être bons si les circonstances s'y prêtaient. Et puis voilà, c'est une histoire d'affairisme déjà à l'époque, de manipulation. C'est l'actualité
exactement.
Présente en fait. Hein.
On n'est pas loin.
Rentrer dans
on
les
voit
détails.
Monsieur et Madame Pichoum qui récupère.
Ça a pas vieilli. Je pensais aux mendiants, ça m'a fait penser à M. Le Maudit de Fritz Lang, où on a ce final magnifique où on réquisitionne tous les mendiants de la ville dans ce chef-d'œuvre, le premier serial killer d'ailleurs de l'histoire du cinéma expressionniste allemand, même époque, c'est 29, 30 peut-être, un peu plus. Et voilà, on recrute tous les mendiants de la ville pour rechercher l'homme, l'assassin d'enfants avec le M dans le dos. Et on fait appel, la police fait appel à Berlin à tous les mendiants de la ville. Qui le repère et qui arrive par le coincé. Donc c'est cette entreprise de mendiants et d'éclopés, de pseudo-éclopés pour... parce qu'il prend un pourcentage, Pichoum, hein, c'est une entreprise de mendicité.
C'est comme ça qu'il vit, oui.
Voilà.
Il alors se dit le plus pauvre de Londres, mais en fait...
Oui,
certainement
et Mackie est plutôt assassin, lui.
Oui, il est plutôt assassin, c'est autre chose. C'est autre chose, il est je sais pas...
C'est aussi sous forme de bande, mais ça reste le chef.
Oui, ça reste le chef.
Plus classique, plus bande à... mafieux.
Ouais, et en même temps, on sent qu'il y a quand même une joie cynique en fait à faire ce qu'ils font. C'est pas un commerce comme Pichoum. Mm-hmm. C'est une espèce de règle, enfin pas de règle de vie, mais de façon de vivre. C'est comme ça. Si on doit tuer, on tue. Si on doit rouler, on roule. Si on doit.
Il y a déjà Scorsese dans la peinture des milieux gangsters et mafieux hein, finalement.
Ouais. En tout cas, il y a un plaisir de
et
ça.
Et puis on sent que c'est pas des mauvais bougres tant que ça finalement. Il en reste de l'humanité.
On finit par s'attacher finalement. Eux aussi.
Qui est celle de chacun d'entre nous, en fait.
Ouais.
Il reste Gérald, il faut quand même l'évoquer. Un dernier personnage pour le trio de ces personnages principaux. Vous avez donc nommé Polly, votre père, Jonathan Pichoum. Vous avez nommé Vincent vous-même, Mackie Messer. Mackie Messer, en allemand, c'est le couteau. Je crois que la traduction française, c'est Mackie le surineur. C'est ça, ouais. Il me semble. En anglais, dans une version jazzy, une version anglophone de la chanson La Complainte de Mackie.
Tout le monde connaît.
On devrait écouter. C'est Mac the Knife, Mac le couteau.
Voilà.
Et donc le troisième. Gérald, il faut quand même l'évoquer. Laissons peut-être Vincent le faire ou Polly, enfin disons Pauline ou bien
on va parler un peu tout le monde.
Et Vincent, il manque Tiger Brown. qui est, c'est un peu compliqué, c'est
le chef de la police.
Et l'ami d'enfance de Mike.
Ouais, et l'ami d'enfance de Mike et Messer. Du coup, on apprend qu'ils sont complètement associés et qu'il y a vraiment, au-delà de l'association et de ce que ça peut leur apporter, il y a un vrai lien. C'est affectif. Peut-être le seul d'ailleurs dans toute la pièce.
Oui, c'est vrai.
Il y a un vrai lien affectif entre deux qui va diriger toute cette histoire et qui va la teinter particulièrement. Et on n'a pas parlé tout à fait de Jenny encore non plus.
Ah oui. Ouais. Et puis de Polly, là, Célia. Non, la mère de...
Célia Pitchoum.
Ah oui, qui est excellente.
Célia Pitchoum. Et puis Lucie, et la fille de Tiger Brown, qui est donc, on apprend, la première femme de Mackie Messer, qui a oublié de dire qu'il s'était déjà marié avant ça. Voilà.
Et il manque aussi quand même une chose, c'est cette fameuse Polly, vous allez pouvoir en parler, cette fameuse Polly, parce que vous venez à l'instant de dire, Vincent, enfin, Mackie, vous venez de dire que s'il y a peut-être un seul vrai lien affectif dans la pièce, c'est entre le préfet de la police Brown et puis Mackie, le personnage que vous incarnez. Mais qu'en est-il de la relation amoureuse entre Mackie et Polly? Elle existe ou pas? Alors, puisqu'ils se marient dans le premier acte.
Oui, ils se marient et je pense que ça fait partie du jeu. Mackie est joueur. Ça lui plaît. Je pense que ce soit la fille de monsieur et madame Pitchoum. D'ailleurs, elle le dit au début. C'est quoi ta phrase? Je sais plus ce qu'elle dit, mais enfin, elle lui dit, en gros, t'as fait un merveilleux coup en épousant la fille de monsieur Pitchoum. C'est ce qu'il pouvait faire de plus insolent. Donc,
nombreux
il le fait.
À Londres.
Voilà, c'est ça. Vas-y, dis-nous ta réplique maintenant qu'elle t'est revenue.
Oui, je m'en souvienne, dis donc.
Il est trop tôt encore.
Et voilà, on n'est pas encore 20h.
C'est d'ailleurs ça. On ne joue pas avant 17h.
Oui. Ouais, la réplique, c'est quoi? C'est un peu le nœud de l'histoire, finalement, puisque Pitchoum ne supporte pas d'être en rivalité avec Mackie Messer et c'est un peu le déroulé de l'histoire.
C'est le fil rouge de l'histoire. Le feu
au centre. Mais on va pas raconter l'histoire en détail.
Non.
Oui, non, non. Ce qui est assez drôle, c'est que justement, je pense que Mackie, et bien qu'il fasse comme s'il n'était pas au courant que Polly était la fille de monsieur et madame Pitchoum, je pense qu'il est très au courant, qu'il sait très bien le petit jeu qu'il est en train de mener. Quant à Polly, ce qui est assez étrange, c'est que je pense qu'elle elle ne se rend pas forcément compte de ce combat entre ces deux grosses puissances, et en même temps elle y prend part très très vite et elle gagne très très vite du terrain partout. Et finalement à la fin de la pièce elle se retrouve assez gagnante, alors qu'au début elle était
une petite
le moyen.
C'est dans l'acte 2,
tout se retourne en fait.
Dans l'acte 2 elle a une sacrée promotion, c'est ça, elle devient plus ou moins une sorte de
Elle
récupère la
prison.
Voilà.
Ouais, c'est ça.
Tout en restant la fille de ses parents, donc en restant dans ce temps elle fait un peu partie de ces deux grosses entreprises.
Et donc je pense que leur relation c'est comme un fantasme en fait, c'est jouons aux amoureux, jouons à faire un couple comme on fait un peu maintenant dans la vie avec tous ces moyens de rencontre qu'il y a partout, et c'est un peu ça, jouons à faire comme si on était. Et donc c'est un peu ça qui se passe entre eux. D'ailleurs il y a pas de déchirement quand ils doivent peut-être plus de la part de Polly, et encore on s'aperçoit après qu'elle profite bien de la situation.
Et Mac est un peu Mac aussi, non?
Mac est un peu Mac.
Enfin, en tout cas, il fréquente beaucoup les bordels. Hein.
Oui, non, mais si, bien sûr, il est, c'est un Mac, mais c'est aussi ce plaisir-là. D'ailleurs, Jean nous a fait découvrir un ouvrage aussi merveilleux que sordide sur la vie d'un Mac aux États-Unis dans les années 40, que certains d'entre nous avons lu, qui est très 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 violent. Il n'a pas ce rapport-là dans la pièce, en tout cas Mac avec ses prostituées. Il y a un rapport de séduction tout le temps, c'est un grand séducteur, que ce soit avec les femmes ou les hommes. Ouais. Et c'est ce qui fait que ce personnage, il est insaisissable en fait. On a l'impression qu'il n'a rien à gagner nulle part, il s'amuse.
Un autre trio important, vous l'avez dit Vincent, effectivement il faudrait parler de Jenny, il faudrait éventuellement aussi évoquer Célia, tu disais Gérald, mais moi je pense à un autre trio important, comment en parler, René Fix, Jean Roberlet et Jean Lacornerie, je vais les donner leurs fonctions plus précisément, puisque là nous ne parlons plus de personnages, nous parlons plutôt de personnes, ce n'est nullement de la fiction. René Fix, nouveau traducteur, là il y a peut-être une question à poser, hein. Gérald, tu demandais éventuellement à Pauline de retrouver la réplique, mais une réplique. C'est un texte, c'est un nouveau texte qui a donc été écrit. Ensuite, j'évoquais Jean Roberlet, vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, Vincent et Pauline, c'est le directeur musical, je crois qu'il est également au piano, me semble-t-il, c'est ça?
À la trompette, et c'est le chef d'orchestre.
Et puis Jean Lacornerie, le metteur en scène. Donc, Gérald, oui, tu es en train de retrouver des éléments aussi.
Oui, donc, Jean Lacornerie a demandé à René Fix de faire une nouvelle traduction pour faire ressortir tous les niveaux de langue dont Brecht joue dans son texte. Donc, le choral luthérien, c'est le final, ça, hein, le dernier. Non, le final, c'est pas du choral luthérien, ça. Le final de tout.
Oui, peut-être.
Enfin, je sais pas, ça m'a fait penser à un choral un peu religieux, luthérien, à l'argot berlinois, du langage de la technique financière au pastiche de François Villon. Et puis, oui, il y a aussi. Ça, c'est. C'est vraiment Villon qu'on entend. Hein.
Oui, oui, oui.
C'est la balade des pendus, un moment qui a été téléporté. C'est un choix de mise en scène, ça.
C'est un choix de l'œuvre. Hein,
de l'œuvre qui est dedans, ouais, ouais, dans Brecht, ouais, à l'origine. Ouais, d'accord. Ouais. Nous nous rapprocherons le plus possible de la version jouée à la création en 1928 et non pas du texte de 1955 qui a été assez considérablement révisé par Brecht. Nous nous appuierons pour cela sur l'édition critique éditée par la Fondation Weill qui a reconstitué le texte original et qui a retrouvé les musiques intercalaires et les chansons utilisées à la création. Certaines avaient été supprimées pour des raisons mystérieuses, des premières éditions de la partition. Voilà. Et donc la proportion des textes et de la musique a été rééquilibrée.
Donc ce texte, comment est-ce qu'on se le... Comment dire, on se le met en bouche de quelle manière, quoi? Ça a assez bien marché, ça a été assez aisé, assez facile. La traduction a marché, cette commande que Jean Lacornerie a passée à René Fix a assez fonctionné. Les mots viennent assez
oui,
bien.
Je pense, en fait, elle est assez proche, je crois, de la version allemande. Donc, et on ressent même parfois... C'était pas toujours facile à apprendre d'ailleurs, parce que parfois on sent une musicalité qui n'est pas complètement... de notre langue, ouais, pas complètement de notre de notre logique de pensée ou quoi, mais une fois qu'on a appris toutes les chansons, évidemment la difficulté était d'apprendre les chansons en allemand, et vous imaginez bien, mais je pense qu'une fois qu'on est rentré dans cette logique, le texte en découle assez naturellement, puisqu'il garde cette espèce de corset que nous amène la pensée allemande, cette logique. Et puis toute cette époque, en fait, toute cette époque est dans la construction, et dans la musique, et dans le texte, et dans la langue allemande.
Oui, la syncope. Pauline, vous
Non, mais oui, c'est exactement ça. Oui. Complètement. Ouais. Je pense que c'était très important, justement, d'avoir une traduction qui collait à ces chansons qui restaient en allemand. Et c'est exactement ça.
Ils ont passé aisément d'ailleurs de l'un à l'autre.
Oui, donc ça, je pense que dans ce cas-là, voilà, c'est bien réussi, je pense.
Et il faut préciser aux auditeurs qui iront voir le spectacle que les chansons sont surtitrées.
Oui,
bien sûr. On ne loupe pas l'histoire.
Et donc, pour évoquer cette deuxième personne, Jean-Robert Ley, sa direction, enfin, je ne sais pas comment nommer, la musicalité qu'il prodigue. Enfin,
il dirige depuis sa trompette et il
répand dans le spectacle.
Avec le coude aussi.
Donc, c'est merveilleux. D'abord, c'est merveilleux d'avoir des musiciens sur scène. On a 9 musiciens sur scène.
Qui jouent avec nous.
Ouais. Qui sont acteurs. Ouais. Qui sont à certains moments, ça c'est très bien.
Complètement intégré. Et c'est assez rare pour le souligner. Et tout ça est rondement mené par Jean-Robert. Et c'est un plaisir parce que il a assisté à beaucoup de quasiment toutes les répétitions. Donc il est partie prenante de la théâtralité, le fait que les musiciens jouent avec nous aussi sur scène. Mmh. Et du coup, sa sensibilité musicale était essentielle pour ce travail-là, parce qu'il comprenait les acteurs que nous étions, les problèmes que nous pouvions avoir techniques ou des moments dramaturgiques. Et du coup, il avait une grande ouverture, et la musique, finalement, la musique qu'il dirige, elle est très théâtrale.
Ça, c'est intéressant. Je pense à autre chose. Et les musiciens que vous êtes, puisque surtout peut-être Pauline, est-ce que Jean-Robert Ley les laisse un peu s'exprimer? Est-ce que vous insufflez une partie un peu rock à votre polypitchum ou non?
Ah
justement,
oui, dans le chant, justement aussi, il a été très ça a été très facile de travailler, parce que le but n'était pas de on partait vraiment de ce qu'on était aussi, de la personnalité. Et Jean-Robert a énormément suivi. Suivi ça et continuellement nous soutient dans notre énergie, hein, chacun.
Donc c'est à la fois renouer avec la version ancienne, originale, se rapprocher de l'esprit des années 30, de cette période
sinistre,
tout en restant soi-même et chanter.
Très interprété, c'est ça, mais le principal, voilà. C'est d'interpréter
voilà,
avec son
c'est l'énergie qu'on met,
c'est qu'il nous a quand même mis le corset de cette partition, c'est-à-dire qu'on a travaillé d'abord les notes exactes, toutes les nuances.
Ah oui,
et puis une
aucune,
fois qu'on avait ce cadenas, ouais, et qu'il nous avait bien dirigé avec tout ça, on a alors laissé s'exprimer les personnages, en fait.
Ouais, complètement. C'est très très fin, en fait. On perd rien musicalement. Mmh. En effet, c'est très très corseté. La partition est vraiment suivie.
On sent
suivie
cette
à
figure
la note
là,
près.
Et puis l'énergie après qui.
Voilà.
Fait quoi,
mais
à l'intérieur,
par contre, l'interprétation à l'intérieur. Mmh.
Mais même dans une phrase, une pause en allemand, si on dit pas l'accentuation au bon moment, ça coule pas. On se plante. On se dit ah ça va pas. C'est pas à ce moment-là qu'il fallait dire denkt, ou je sais pas quoi. Et là ça part tout. Et là bon, on sent très bien que c'est tout parfaitement maîtrisé, quoi. C'est impressionnant.
Donc puis la musique est Weill, c'est un compositeur incroyable, donc la musique est déjà...
Oui, la musique et la langue sont...
Il n'y a aucune difficulté, en fait, si on la suit vraiment. Exactement. On est porté par, par Brecht et Weil.
On a de la chance.
Un duo magnifique.
Ouais. Nous avons donc évoqué le texte, René Fix, nouvelle traduction. Nous avons à l'instant évoqué la musique, certes, vous le dites, Pauline, la musique de Kurt Weill, mais ici...
Sept musiciens, polyinstrumentistes. Hein.
Une musique un peu...
assez, à la fois très riche, très minimaliste, très orchestrale.
Neuf.
Ah, ils ont mis sept sur le programme.
Retréparé.
Enfin, ils sont neuf.
Une musique de, de Jean Roberlet. Et maintenant, je vous vole ce mot que vous avez prononcé à la seconde, Pauline. Vous avez dit interprétation et Jean. La cornerie, alors quel travail avez-vous mené avant la première qui n'a pas eu lieu la semaine dernière, le 3 novembre, puisque, comment appeler ça, infidélité que Jean La Cornerie a fait à son théâtre de la Croix-Rousse. La création de ce spectacle n'a pas du tout eu lieu sur cette fameuse, cette belle, grande, magnifique colline lyonnaise. Non, ça a eu lieu un peu plus dans le nord, vers carrément à la frontière belge presque, c'est ça, à Calais.
On avait été en face de l'Angleterre.
C'était... Donc pour on va les qualifier de deux petites dates. Donc bref, avant cette création, la préparation avec Jean La Cornerie. Vous avez évoqué tout à l'heure en tout début d'émission votre rencontre, Vincent, il y a quelques années, Pauline, c'est un peu plus récent. Mm. Mais donc le travail, comment ça s'est passé avec lui? Est-ce que il est pas là? Donc Héloïse ne rapportera rien, c'est promis. Est-ce qu'il est assez comment dire, hyper directif? Vous parliez tout à l'heure de langue allemande de Vincent qui permet de créer une sorte de corset, je ne sais quoi. Est-ce que lui aussi est très très dirigiste ou je ne sais quoi, ou au contraire, enfin disons, ou alors est-ce qu'il le fait mais avec un souci, un propos qui est toujours justifié, précisé? Je dis n'importe quoi, je vous laisse parler comme vous le souhaitez. Je vous en prie. Jean La Cornerie. La question, c'est Jean La Cornerie.
On pense à Jean très fort et on se dit alors comment on a travaillé avec Jean? Parce que ça se fait tout en fluidité. On sent pas le travail en fait. Bon, d'abord, il y avait le plaisir de l'œuvre, d'interpréter cette œuvre, et on l'avait tous, et lui de la monter certainement. Et finalement, on se rend compte que sa vision est très précise, mais elle est très en amont. Il a fait le choix d'Émilie Valentin pour les marionnettes, il a fait le choix de Jean Roberlet, il a fait le choix de René Fix, et il a fait le choix de ces comédiens-là. Et donc la réunion de ces comédiens, de toute façon, nous emmène dans une couleur particulière. Donc on s'influence les uns les autres, ce qui crée l'ambiance particulière de ce spectacle. Donc déjà au départ, il nous a dirigés à notre insu en fait.
Parce que tout ça,
c'est une direction très en amont. Et puis après, il y a ses envies, et ses rêves, et puis les nouveaux rêves qu'il fait en nous voyant évoluer. C'est-à-dire que tout d'un coup, il nous voit évoluer, il fait « Ah, peut-être qu'on pourrait... » Et puis il a des envies, et puis il me fait penser un peu à Maki Messer, c'est-à-dire qu'il joue, il joue, il s'amuse, et c'est beaucoup dans la... Ce qui n'enlève pas le sérieux de tout son travail, mais c'est dans un plaisir jouissif de carpe diem, quoi, du moment présent.
C'est vrai que c'est un très très bon mélange entre la précision et la simplicité. On ne se rend pas forcément compte, mais en fait c'est tellement précis que ça touche là où il veut aller.
C'est très bien, il veut aller et il vous y emmène aussi.
Exactement.
Il peut changer
tout d'un coup en nous voyant, en disant « Ah non, finalement c'est plus là tout à fait que je vais aller plutôt là. » Et ça c'est une qualité énorme qu'il nous faut dans le spectacle vivant, parce que justement c'est vivant. Donc c'est bien d'avoir cette possibilité de respirer ailleurs ou un peu à côté.
Et est-ce que vous avez des points de désaccord sur certaines choses, enfin au niveau de l'interprétation même du...
Oui, ça peut arriver qu'on soit surpris par parfois des directions ou quoi, et puis nous, on n'a pas le recul quand on est dedans. On est à chaque fois au moment M, point. Mmh. Et tout d'un coup, il est toujours là pour nous expliquer aussi ses choix, parce qu'il est très aussi documenté sur l'œuvre et sur ce que lui veut raconter de tout ça. Et quand on fait avec lui ce pas, parce qu'il prend toujours le temps de faire cette démarche avec nous, si jamais on ne comprenait pas son choix, c'est évident. C'est évident, et puis c'est sa vision qu'on est là pour servir au mieux. Donc, quand il y a débat, c'est toujours pour dire comment je peux le servir au mieux son idée, sans me perdre. Donc, c'est toujours là qu'est le débat. Le débat, il ne doit pas être dans « je veux faire ça, parce que moi, je pense que c'est mieux ». Si on commence dans un débat comme ça, et je pense qu'il le sait en choisissant les interprètes qu'il a choisis, que ce ne sera pas ce genre de débat qu'on aura. C'est-à-dire, on va toujours défendre l'œuvre, et ce qu'il faut, c'est qu'il nous inonde de sa vision de l'œuvre, et qu'on puisse la comprendre, l'aimer, et puis la rendre le mieux possible.
Vous, en amont, vous êtes beaucoup documenté sur dans la pièce ou pas?
Oui, bien sûr. On fait. Moi, j'avais demandé à Jean de qu'on se pas vu depuis un petit moment, donc on se revoit. Et puis on a pris une ou deux fois un café à Paris. Et puis on a discuté de tout ça et on a parlé de livres à lire, de films à voir,
de versions, d'interprétations anciennes de,
ouais,
du spectacle.
Ouais, moi j'ai beaucoup écouté Max Rabe puisque c'est la direction que voulait donner pour Mackie Messer Jean. Donc voilà, tout ça c'est il faut qu'on baigne dedans. C'est comme quand on dit pour apprendre une langue, il faut aller dans le pays et y vivre. Il faut être, comment on dit, se baigner dans le, comment on dit, immersion. Voilà, être en immersion. Ben là, c'est pareil. Il faut être en immersion, je trouve, pour pouvoir arriver à la tête pleine de rêves au premier jour de répétition. Même si les rêves finalement vont pas être ceux auxquels on avait pensé, c'est pas grave. Je sais pas si j'ai répondu à la question.
Si. Très bien.
Une immersion pour vous aussi, Pauline, Polly Pichu.
Oui, je me suis. Bon, déjà, c'est une œuvre qui est assez connue, et puis on la connaissait tous depuis plusieurs années, donc forcément, il y a déjà un gros truc. Après, j'ai peut-être moins suivi, justement, une direction précise dans les interprétations. Mais oui, on regarde toujours, on écoute beaucoup de versions, voilà. Comme tous vos CD, là.
Ça donne une direction, quoi.
On a ça chez nous avant. Voilà, c'est ça.
Hyper célèbre, elle a été jouée, j'ai trouvé ça sur Wikipédia, alors il faut peut-être vérifier les sources, mais elle aurait été jouée 10 000 fois en l'espace de 4 ans, bah juste, elle est de 28, en 33, le 30 janvier, Hitler prend le pouvoir, c'est déjà la société allemande est gangrénée par les cabarets, c'est la Grande Dépression, une baguette vaut des milliers de dollars, et bon là c'est la décadence totale, et voilà, en 4 ans, elle a été jouée 10 000 fois dans toute l'Europe, elle est traduite en 18 langues dès sa sortie. Cette composition, et elle a un succès phénoménal, c'est devenu un grand classique tout de suite, ça fait un grand un succès énorme, quoi.
Nous avons parlé de beaucoup de musique, est-ce qu'on en écouterait enfin,
voilà, la balade
une nouvelle comparaison, la balade extraite de la production de la Croix-Rouge,
du Souteneur.
Après on essaiera de trouver celle de Téléphone
qu'on peut dédier à qui. Non.
Un peu de politique.
Non pas maintenant, non, c'est pas
de politique en ce mercredi 9 novembre on a
interprété par Amélie Meunier.
Par
Amélie Meunier.
Donc qui incarne
Lucie, alors qui à ce moment-là incarne,
qui est excellente et qui d'ailleurs
qui chante finalement cette chanson. On ne sait pas quelle
chante Mackie Messer pour c'est elle qui lance le spectacle.
Exactement.
De manière magistrale, parce que pour ressortir ce classique chanté par Armstrong et Ella Fitzgerald, un grand classique de jazz qui a été interprété des dizaines de milliers de fois, et elle donne une force tout de suite, elle nous met dans le bain. Ouais. Elle fait une performance exceptionnelle dès le début, on est dedans et c'est aussi grâce à elle que le spectacle gagne en force dès le début. Donc voilà, je voulais le dire.
Écoutez ça et arrêtez votre passage. Ich bin allein, ich bin allein. ist nicht fühlt, das kann auch weiter.
Hawaïenne,
on reconnaît, très cabaret, on reconnaît un peu la complainte de Mackie Messer, mais...
Alors, j'ai fait un excès de zèle. J'ai voulu parler d'Amélie Munier, hein, qui ouvre le spectacle avec la célèbre chanson de Mackie Messer, Moritat, que tout le monde connaît. Et voilà, je me suis trompé complètement.
Elle interprète très bien. Oui,
merveilleusement bien. Et là, non, ce qu'on vient d'entendre, c'est la balade du Kouteneur. Et c'était donc Nolwenn Korbel et moi-même. Voilà.
Et alors, Gérald, si on veut écouter la version ancienne, je vais essayer.
C'est la piste 8, version Telefunken
1928. Oh là là, le son. Und die Hure Jenny gedenken in einem Lied gemeinsam verbrachter schöner Stunden. In einer Zeit, die längst vergangen ist, lebten wir schon zusammen, sie und ich.
Très proche. Donc les gens qui aiment ça, je pense qu'ils iront. Ça peut être un argument, ça.
Alors c'est toujours le truc. De quoi parlons-nous? Puisqu'on a écouté beaucoup de musique, nous parlons du Drei Groschen Oper, l'opéra de Katsu. D'ailleurs, c'est intéressant, hein, l'opéra de Trois Groschen en allemand.
4, 3 est devenu 4.
En anglais
4.
Aussi, The Three Penny Opera.
Voilà, 3 pence, 3 pennies, et bien qui est devenu en français l'opéra de Katsu.
Ça se passe à Londres, on n'a pas dit.
Il est donné actuellement au Théâtre de la Croix-Rousse, dirigé par, enfin, mise en scène de Jean Lacornerie, direction musicale assurée par Jean Remberlet, traduction de René Fix. Et puis parmi les comédiens, on peut nommer ceux qui sont présents dans cette émission, Vincent Eden ainsi que Pauline, j'ai manqué...
Gardel.
Vous avez tous les deux, vous apparaissez sur Internet, je crois que j'ai mis une page Facebook pour vous Vincent, et pour vous Pauline, il me semble que vous avez carrément un site, .com je crois, c'est ça? Ou .fr
oui.
Ou,
oui. Maintenant que vous le citez, il faudrait bien que j'y retourne un peu.
Ah ben, je l'ai quand même indiqué sur le blog.
Non, mais si, oui, j'ai fait une époque, j'avais un site.
Et c'est vrai, on voit plutôt avec, vous apparaissez avec un micro, je crois, donc on se dit que là, pourtant, vous êtes sur scène, vous êtes bien comédienne, mais aussi chanteuse.
Oui, mais aussi chanteuse, ouais. Oh, ouais, pleinement les deux.
Tout ça sera sur le site.
Tout est sur, et déjà sur le blog.
Précipitez-vous au Théâtre de la Croix-Rousse, vous n'avez
une pièce
plus que
qui est encore
ce
donnée.
Soir. Hein, à 20h, jeudi à 20h, vendredi à 20h, mais samedi à 16h, ça sera la dernière. Il reste 4 moments pour y aller. N'hésitez pas, allez-y,
c'est
un très bon moment. Et c'est très riche.
Gérald,
on ne peut pas parler de tout le talent qui déborde de ce spectacle à tous les niveaux.
Si jamais les auditeurs manquent les représentations qui sont données à Lyon, où peuvent-ils se rendre?
Ah, alors voilà, il y a une tournée qui s'engage.
Ah, c'est super ça.
Donc il a été coproduit par Calais en octobre. Il est passé par Arc, Hénin-Beaumont, Roubaix, Bourges, Villefontaine, Nevers, Dole, Clamart.
Alors attends,
Quimper, Amiens, Oyonnax,
ce qui est à faire.
Et Villefranche-sur-Saône.
Bon, il y aura un retour à Villefranche.
Il a tout dit.
Au mois de janvier.
Voilà, là on est en novembre. Donc il va enchaîner avec Bourges.
Exactement.
Après, ça sera Villefontaine, toujours en novembre, fin novembre, Nevers, si vous avez le courage de prendre la voiture pour aller à Nevers. Dole, c'est pas si loin que ça, Dole, hein, par l'autoroute. Reims, c'est un peu plus loin, Clamart, Quimper. Mais par contre, vous pourrez, si vous l'avez raté et que vous teniez vraiment à le voir, c'est au Centre culturel Aragon, le 27 janvier à 20h30 à Oyonnax, qui est la porte à côté. Et le Théâtre de Villefranche-sur-Saône, le 31 janvier.
C'est encore
belle période
près.
De fête pour aller voir du Brecht, là. Je ne sais pas à quoi ressemblera le monde d'ici là, il peut se passer plein de choses. À 20h30, à Villefranche-sur-Saône.
Bon, oui, tiens, mince, paf,
Et pour les autres, les fans de Weill et Brecht, dont je suis, je renvoie à nos chers auditeurs à notre blog et à l'émission En réécoute, toujours podcastable et écoutable à l'infini. C'est l'émission 48 où nous avions reçu ce collectif génial venu du Québec sous le haut patronage de.
Mince,
leur parrain.
Le parrain. Ah, ben, Robert
Le Sage. Lepage. Alors, Robert Lepage. C'était l'orchestre d'homme orchestre qui avait une performance géniale autour de la musique de Kurt Weill.
On les avait
de la musique scénarisée.
Pour le théâtre de la Croix-Rousse. Ils étaient encore passés,
voilà,
là-bas pour quelques dates.
Voilà, écoutez l'émission, c'est la 48. On avait aussi déjà passé du Weill et puis c'était une super troupe vraiment. Ils avaient vraiment rendu un très bel hommage et scénarisé la musique de Weill avec des instruments complètement improbables. C'est très riche, très beau.
Bah, ça donne envie.
C'est génial, ouais.
Et on n'a pas tout dit, dis-tu, certes. Alors je ne sais pas, Isa, mince, comptons sur toi. Aurais-tu une question à poser en cette fin d'émission? Il reste encore 2 minutes, puisque à 15h... À 15h, oui, c'est vrai, on pourrait écouter la Moritrate, c'est
exact. Finir.
Mais à 15h, il n'y aura pas de blues des canuts, non, rien de particulier. On passe alors cette Moritrate.
Je voulais juste vous demander, est-ce que vous pensez que la pièce serait une pièce accessible pour, par exemple, des enfants ou même des...
C'est indiqué. Ouais.
Moi, personnellement, très mes neveux vont tous venir et je pense qu'ils vont adorer. Il y a
à partir de 13 ans.
À partir de 13 ans. Je suis pas sûr qu'on
joue. À partir de 14 ans.
Ouais.
Mais
à 12 ans, je suis pas sûr que ça marche. C'est un peu raide.
Oh!
Moi, je crois pas. Je pense qu'on voit autre chose. Il y a aussi tout ce travail de marionnettes. On n'a pas beaucoup parlé d'Émilie Valentin, mais il y a tout ce travail de marionnettes qui est quand même très, très, très visuel. C'est un spectacle très visuel. Donc, je pense que les enfants, ils verront autre chose. Ils n'auront pas tout le cynisme et tout le côté noir. Et tant mieux, ils ont le temps.
La dimension érotico-sexuelle est quand même pas trop trash.
C'est light. Et juste une petite chose, parce qu'on a cité presque tous les comédiens, mais pas tous. Donc, il y aurait ce Jean Sclavis, évidemment, qui est le comédien. Et on n'a pas, je crois, donné les noms de Monsieur Madame Pitchoum, Jacques Verzier et Florence Pelly.
Excellent. Voilà.
Parce que les autres, on les a tous cités, me semble-t-il.
Brown.
Ah, bien sûr, Gilles Bugeaud qui joue Tiger Brown.
Justice à tout
voilà,
le monde,
je crois qu'on a cité tout le monde.
Et au décor, aux costumes aussi, qui sont très réussis.
Robin Chemin
qui avait fait les costumes des Dames des Halles. Il y a les lumières, il y a les répétiteurs, il y a. Bon, voilà.
Pour rendre hommage à cette opéra de Katsu, il faut écouter cette complainte de Maki, le surineur. Donc, on va la diffuser. Et puis, on se donne quelques instants pour trouver encore peut-être matière à aller quelques secondes de propos, puis peut-être quelques annonces. Et je crains qu'il faille ensuite arriver au générique de fin d'émission. Donc, avant cette complainte, je vois l'heure, je vois qu'il est 15h. Et 15h.
Par Tolénia, qui était la femme de Bertolt Brecht.
Certes, 15h. Moi, j'ai entendu dire qu'à Lyon, actuellement, s'organise un anniversaire party pour un petit garçon qui aujourd'hui a pile, je crois, 8 ans. C'est un petit Flavio en portugais, c'est un petit Flavien en français. Il est avec tout un tas de petits camarades.
Bon anniversaire.
On les salue.
Bon anniversaire.
Ce petit garçon qui est à Lyon, nous écoutons la complainte de Maki Messer et puis nous reprenons ensuite quelques instants. Il n'y a pas de blues des canuts aujourd'hui, mais il va quand même falloir clore. Parce que
les annonces d'expo, allez voir, il fait tellement mauvais. Il faut aller à l'Oyer
Cool.
La Galerie Mandon, Salon du Sud-Est, Palais de Bondy. Voilà, c'est fait.
Bon anniversaire.
Allez voir de la peinture quand
bon anniversaire et musique aussi. Et l'Otolenia, continue encore comme ça, l'Otolenia, la femme de Kurt Weill. Gérald, allez, deux, trois petits trucs. Isa, deux, trois petites annonces. Et puis ensuite, on entend notre nouveau générique, Cora, un super bon morceau. Gérald, ouais, il y a quelques expos.
Oui, j'avais rappelé notre invité la semaine dernière.
Geneviève Garcia-Gallo.
Qui allait voir. C'est vrai, quand il fait mauvais, c'est bien de sortir voir des expositions. Il y a plein de choses à voir. Comme toujours à Lyon et dans toutes les institutions, au CHRD aussi. Toujours.
Et puis toi Isa pour un prochain invité.
Ouais, pour un prochain invité, Stéphane Roche qui sera là le 6 décembre. Bon, producteur de cinéma ici à Lyon.
C'est très bien. Gérald.
Nous aurons d'autres invités, peut-être plasticiens et compositeurs et collectionneurs de manuscrits du 19e qui vont publier des partitions très rares.
Tu reconnais ça, Gérald?
Ah oui.
Notre nouveau générique de fin d'émission.
Oui, puisque Carbone 14 nous l'avait piqué sur France
voilà,
Culture.
C'est terminé pour Massive Attack. Merci beaucoup, Héloïse, qui n'est pas intervenue, mais qui était néanmoins présente. Merci beaucoup, Vincent,
merci
qui était très présent. Et
merci, vous
bien. Merci beaucoup, Polly. Merci, Isa. Merci, Gérald.
Allez voir ce spectacle merveilleux.
Venez.
Il reste encore quelques dates. Auditeurs, allez sur le blog. Il reste encore des places. Auditeurs, allez sur le blog pour avoir plus de renseignements. Et puis, c'est tout. Sortez en tout cas, mais sortez plutôt le soir parce qu'en après-midi, il pleut. Alors, restez chez vous. Faites des anniversaires. c'était. Mais voilà. Pas de blues et canuts pour aujourd'hui. Pas non plus, je crois, de son bâtard. En revanche, on n'arrête pas le prog à 17h. Ça, c'est comme tous les mercredis. Combi, méga combi à 18h. Et puis, canu info à 19h. Et c'est comme tout le temps. Rendez-vous la semaine prochaine. On parlera de l'auditorium. Et puis, des concerts russes. Ils vont donner l'intégrale des symphonies de Tchaïkovski en quoi 10 jours. Et dans deux semaines, un peu plus de théâtre. On descendra du côté des Célestins.
Et peut-être un invité surprise de dernière minute.
Auditeur,
restez à l'écoute. Vous avez le numéro de téléphone sur le blog.
À très bientôt. Ciao tout le monde. Salut.